Roger Muntu, bonjour. George Floyd a été tué le 25 mai par un policier blanc à Minnesota. Cet incident soulève le problème du racisme et des violences policières contre les Noirs aux États-Unis. Que vous inspire le racisme en général et son impact sur les Noirs et les Africains dans ce pays?
Merci d'abord, hein, Julie, de me donner cette opportunité de parler dans votre radio qui est si réputée, si connue partout dans le monde. C'est pour moi une opportunité. Vous savez, ça fait plus de 32 ans ou 33 ans, je me rappelle pas, que je suis dans ce pays. C'est un problème qui devient récurrent après tant d'années et je pense que c'est cela qui a poussé les Afro-Américains et la communauté afro-américaine et aussi les Africains qui sont aux États-Unis, bien sûr accompagnés des Blancs qui sont Américains et les Hispaniques, les Asiatiques qui se sont mis ensemble pour dire mais non, ça doit s'arrêter parce que chaque année, il y a un cas de racisme où on tue et la brutalité policière, je veux dire. Et donc, ça arrive à un point où le peuple s'élève ensemble pour dire non. Et c'est pour ça qu'on voit toutes ces manifestations qui se sont déroulées partout, en Georgie, en Alabama, en Missouri, en Caroline du Sud. Et bien sûr, on se rappellera aussi des lois des Jim Crow, qui sont des lois qui étaient instaurées avant ici. Et c'était un véritable apartheid ici aux États-Unis. Et donc, les gens pensent que c'est une continuation de ces lois-là et ils s'élèvent comme un. On a vu dans plus de 140 États ici aux États-Unis, les gens ont marché jusqu'aujourd'hui et les gens continuent à marcher. Ce week-end, j'étais dans la capitale, j'ai encore vu des gens qui sont venus de quatre coins des États-Unis pour marcher, pour réclamer, pour dire non au racisme, pour dire que, comme ils disent en anglais, « enough is enough ». Et aussi, dois-je ajouter, hein, Julie, que dans tous les cas qui ont précédé avant George Floyd, et c'est ce que les Américains réclament au fait, parce qu'il faut qu'une justice soit faite, mais parce qu'on a vu dans le passé où les policiers qui commettaient ce genre de bavures étaient soit mis en liberté ou n'étaient pas inquiétés du tout. Et c'est ce qui a fait aussi à ce que les gens qui protestaient puissent réclamer mais une justice vraiment clair et juste. Vous avez vu qu'au début, on avait juste arrêté le monsieur qui avait mis son genou sur George Floyd, mais après on a vu que les quatre policiers impliqués dans le meurtre de George Floyd avaient été inculpés aussi et étaient mis en détention. Et cela, c'est suite à ce que réclamaient les Américains.
Et justement, en réponse à cette mort de George Floyd, des protestations plus largement à la violence policière contre d'autres Noirs se sont rapidement répandues aux États-Unis et à l'étranger. Vous avez participé samedi à la marche de Washington. Et pensez-vous que le message soit passé? Et qu'est-ce qui justifie la présence des Blancs que l'on a vu parmi les manifestants à Washington exactement?
Eh bien, la présence, ce qui explique la présence des Blancs, c'est parce qu'il faut pas oublier hein, que la plus grande partie des Américains sont des Blancs et y a beaucoup de ces Blancs-là qui se sont mélangés après toutes ces années avec les Afro-Américains qui sont aussi contre l'injustice qu'ils voient dans leur système et ils ont décidé d'accompagner leurs frères et sœurs afro-américains pour réclamer la justice. Et d'après eux, hein, c'est plus une affaire de noir ou de blanc, c'est une affaire américaine, c'est un problème américain, c'est un problème dans la justice américaine. D'après eux. Donc, ils doivent tous être ensemble pour se soutenir. Ce groupe de manifestation était composé des groupes divers. Hein, le mouvement, on l'a vu, venait de partout. Ils étaient hétérogènes. Au cours de la première partie.
Et alors, que diriez-vous de l'interaction noir-américain et africain? Et que pensez-vous de la vie des Congolais aux États-Unis, même en face aux non-policiers?
Je pense qu'il y a encore une barrière. Je pense qu'il y a une petite fraction des Afro-Américains qui comprennent l'Afrique parce que peut-être ils ont eu aussi la chance d'aller en Afrique. Vous savez, quand vous n'avez jamais été à un endroit, vous n'avez aucune idée. Et donc, les Afro-Américains ne sont pas totalement comme les Africains. Et c'est deux cultures différentes. Même si nous sommes tous de la peau noire, mais nos cultures ne sont pas les mêmes cultures. Et donc, je pense qu'il y a un grand travail à faire de deux côtés pour qu'ils puissent avoir une certaine symbiose, entente entre les deux peuples, parce que je pense que de fois ils se comprennent pas. Enfin, moi j'ai rencontré des Afro-Américains, amis à moi, qui disent que les Africains, bon, ne comprennent pas leur combat, les Africains ne comprennent pas d'où ils viennent, où ils vont avec leur combat, et les Africains aussi qui sont aux États-Unis, qui pensent que les Afro-Américains sont violents envers eux, c'est ce que tu entends. Mais ceux-là qui s'entendent vraiment s'entendent bien et se supportent, parce que comme je vous disais au début, ce qu'il y a eu un grand groupe des Africains qui se sont mis derrière aussi ce mouvement de Black Lives Matter pour accompagner les Afro-Américains.
Quel est à ces jours l'impact des lois de l'immigration sur de nouveaux immigrants africains aux États-Unis?
Alors l'impact des lois de l'immigration sur les nouveaux immigrants africains aux USA, je ne pense pas qu'il y a un grand changement. Je ne pense vraiment pas. Par exemple, je sais que l'administration Trump, suspendant l'essentiel de l'immigration aux États-Unis, n'a pas eu d'impact direct sur les étudiants étrangers, par exemple. Par contre, cela a créé de l'anxiété hein, et des doutes quant à leur capacité de rester et de travailler aux États-Unis. Ça, c'est autre chose. Après l'obtention de leur du diplôme, ça, c'est autre chose. Mais il n'y a pas eu assez d'impact. Il n'y a pas trop de différence. Mais maintenant, rester et travailler aux États-Unis, ça, maintenant, je pense que là, il y a plusieurs, les lois ont été rendues un peu dures.
Ouais. Roger Montou, en cette période préélectorale, pensez-vous que la situation actuelle ait des incidences sur l'élection présidentielle prochaine? Et si cela pouvait avoir des incidences, ce serait dans quel sens?
Vous savez, la politique, c'est la politique. Hein. Bien sûr que quand il y a un événement pareil et qu'il y a les élections qui arrivent, quel que soit le pays ou l'endroit, les politiciens, ils en profitent toujours hein, pour bien profiter d'une occasion pareille. Et donc je pense que oui, les politiciens vont vraiment profiter de cet événement pour essayer, et surtout les démocrates, parce que ce sont les républicains qui sont au pouvoir, donc les démocrates sûrement vont profiter pour essayer d'utiliser ce moment pour essayer de gagner plus de points contre les républicains. Donc je pense que pour eux, ou d'après eux, et on les voit sur les réseaux sociaux, c'est une occasion. Et vous savez, cette affaire est venue se mélanger avec la pandémie de coronavirus hein, qui a touché de manière disproportionnée les Afro-Américains aussi, en même temps, avec des décès presque deux fois plus importants que ce qu'on pourrait s'attendre en fonction de leur part de la population. De plus, la mort de Floyd et les troubles qui s'en suivent devraient aussi, bien sûr, clairement avoir un impact sur l'élection de 2020. Enfin, c'est ce que moi je pense. Bon, n'empêche aussi qu'il faut pas ignorer hein, qu'il y a un grand groupe de libéraux blancs et des jeunes. Il y a aussi les hispaniques et d'autres minorités aussi, les asiatiques, qui sont aussi nombreux. Hein, donc, let's wait and see, c'est ce que je dirais.
Et en ce qui vous concerne, Roger, durant toutes ces années aux États-Unis, avez-vous déjà vécu un cas des violences policières ou connaissez-vous des Congolais qui se sont retrouvés violentés par la police? Et quel est votre état d'esprit en vivant dans un environnement pareil?
Je veux peut-être vous choquer pour vous dire que moi-même j'ai vécu cela aussi. Ça va de la façon dont vous répondez à ces policiers là hein, parce que de fois vous sentez comme si ils sont en train de vous provoquer, mais si vous êtes calme, plusieurs fois moi ça m'est arrivé, tu sentais vraiment qu'ils étaient en train de te provoquer. Une fois, pour une petite anecdote que je pourrais vous raconter, une fois je conduisais ma voiture sur l'autoroute, il y a un policier qui me suivait derrière, il m'a vu, il m'a dit de me mettre à côté, je me mets à côté, il vient, il met mes notes, il me met à côté, il me pousse. Bien après, je vois oui d'autres voitures de policiers qui viennent derrière et ils entrent dans ma voiture, ils regardent, ils fouillent, ils regardent et moi je suis menotté, je suis par terre, je me demande mais pourquoi je suis menotté. Il y a une dame policière qui est à côté de moi qui me dit on a eu une information que votre voiture et c'est une voiture volée en Caroline du Sud. Moi j'ai dit waouh, ben non, ça fait plus de 15 ans que j'ai cette voiture là, donc on n'a pas volé, moi j'ai cette voiture, ça fait 15 ans. Et après c'est leur chef qui vient qui dit bah écoutez, enlever les menottes, on s'excuse messieurs, on s'était trompé. Voilà. Mais donc dans des cas comme ça, si je m'étais énervé, bon, Dieu seul sait ce qui m'arriverait. Cela n'empêche qu'aussi qu'en tant qu'une personne de couleur dans ce pays, on essaie de dire à nos enfants, écoutez, quand un policier vous arrête, essayez de respecter les policiers, essayez de respecter ce que le policier vous demande, parce que il faut pas non plus oublier ici que les policiers ont aussi un travail difficile à faire. Il y a une grande partie des policiers américains qui sont des gentlemen, qui savent bien faire leur boulot. Cela est très important, Julie, à signaler, moi je pense. Donc il y a beaucoup de policiers qui respectent les gens, qui font leur boulot comme il faut, mais il y a ceux-là aussi qui n'arrêtent pas de commettre des bavures, malheureusement. Vous savez, après toutes ces années où les Martin Luther King ont marché contre ça pour réclamer leurs droits civiques, et les gens ne peuvent pas comprendre que cela arrive encore aujourd'hui. Les gens que j'ai vus à la marche à Washington disent exactement ça.
Et pour finir, Roger Montou.
Mais juste pour finir, Julie, moi je pense aussi que je vais ajouter, il ne faut pas que l'image des États-Unis soit ternie par ce qui est arrivé, parce que oui, c'est vrai que cela a créé de mouvements partout dans le monde, mais les gens doivent aussi comprendre que nous sommes à plus de 300 millions d'habitants ici, et les États-Unis c'est un pays de lois et de droits, et d'ailleurs c'est pour ça il y a tout ce mouvement qui se passe. Quand on tue une seule personne comme ça, une vidéo que tout le monde a vue, tout le monde se lève pour dire non. Et donc, il faut aussi voir le côté positif de ce pays où on tue une personne comme ça. Il y a des pays, et je vous apprends rien, Julie, il y a des pays où les gens meurent matin, midi, soir, mais les gens ne se lèvent pas comme ça. Et voilà un pays de droit, un pays de loi, un pays de justice, où quand cela arrive, on se met tous debout comme une seule personne, et la justice doit faire son travail. Et donc, je pense qu'il faut aussi qu'on voit le côté positif des lois américaines et de la justice américaine.
Merci à vous.
Merci beaucoup encore une fois, Julie, pour ce privilège que vous m'avez donné.